Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Des chefs d'État et de gouvernement ont pris part au sommet sur le climat qui a eu lieu le 23 septembre au siège des Nations Unies à New York. À l'issue de cet événement, qui a aussi drainé des centaines de représentants d'organisations régionales, ceux du secteur privé, sans oublier des ONG, le secrétaire général de l'ONU a salué les forts engagements pris par plusieurs dirigeants en faveur de la conclusion d'un accord universel significatif sur le climat à Paris l'année prochaine, avec un premier projet qui sera présenté à Lima en décembre 2014. Les leaders mondiaux ont réaffirmé leur détermination à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius par la réduction des émissions, a souligné Ban Ki-moon. Nous vous invitons à suivre dans ce magazine les opinions émises par diverses personnalités sur la problématique du changement climatique. La parole est tout d'abord au président Ali Bongo du Gabon sur les initiatives prises par son pays pour lutter contre le changement climatique.
Ce que nous souhaitons, c'est qu'en passant par Lima et en passant aussi par maintenant Libreville, puisque nous voulons organiser une conférence avec tous les pays du Sud, puissions atteindre Paris l'année prochaine et avoir un accord global qui soit contraignant et qui amène tout le monde à accepter que nous devons, chacun d'entre nous, faire des efforts. Alors nous n'avons pas attendu au Gabon et les autres pour commencer à faire des efforts. D'abord, je tiens à faire remarquer qu'un pays couvert de 88% de forêt, aujourd'hui la forêt est un des éléments qui est important, qui apporte des solutions. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des efforts pour que notre taux de déforestation, par exemple, soit de 0,01%, indiquant par là qu'il est possible de bien manager et de préserver les forêts, mais en même temps d'avoir aussi une industrialisation. Car aujourd'hui, notre forêt représente des revenus pour nous. Et ce que nous avons commencé à faire, c'était d'abord d'interdire l'exportation brute de grumes pour que nous puissions aller vers des produits manufacturés qui nous donnent meilleur accès au marché extérieur, mais surtout qui créent des emplois. En disant qu'il est important que chacun d'entre nous puissions réaliser que l'effort, ce n'est pas l'autre qui va le faire, c'est nous. Et nous, pays du Sud comme pays du Nord, nous sommes décidés à faire en sorte que nous puissions avoir cet accord à Paris, qui soit un accord certes contraignant, mais qui fasse en sorte que nous fassions des efforts pour maintenir la température de notre planète en dessous des 2 degrés centigrades d'augmentation. 2025, le Gabon aura réduit de moitié ses émissions.
Mais y a-t-il pas contradiction entre promouvoir l'industrialisation et en même temps lutter contre le réchauffement de la planète?
Non. Ce que nous avons fait, c'est que nous avions, nous, lancé un projet qu'on appelait le plan climat et nous avions axé autour de la même table tous les acteurs, aussi bien les ONG, aussi bien l'administration que les hommes d'affaires pour dire, bon voilà, il faut donc que notre projet politique soit un projet qui intègre les questions environnementales. Et donc tout le monde a participé et ceci nous a amené à développer un plan d'affectation des terres. Par exemple, ce qui est très important au Gabon, nous savons quel est le pourcentage de terres que nous voulons mettre à la disposition de l'agriculture, mais mettre aussi à la disposition des industries, mettre à disposition du tourisme, ainsi de suite. Donc ce plan d'affectation des terres est un élément important qui va nous permettre de pouvoir travailler, mais dans le sens de mettre plutôt en place une économie avec un développement durable.
Une autre personnalité de l'Afrique centrale s'est exprimée. Il s'agit de Raymond Tshibanda, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, sur la gestion d'immenses forêts de son pays.
Nous sommes déterminés à apporter notre part, à préserver l'environnement et les perspectives de développement de l'humanité. La République démocratique du Congo y contribue d'abord en tant que le principal pays en Afrique et qui constitue avec les autres pays de l'Afrique centrale le deuxième poumon de l'humanité. Mais comme tout le monde le sait, le gros de cette forêt de l'Afrique centrale se trouve en République démocratique du Congo. Et c'est déjà beaucoup que de prendre sur nous plutôt que d'exploiter de manière outrancière cette forêt pour le développement de notre pays et pour l'amélioration des conditions de vie en termes économiques des populations congolaises, de prendre sur nous de la gérer de manière responsable en acceptant de perdre certaines rentrées financières aujourd'hui, mais de manière à préserver l'avenir non seulement de l'humanité mais de nos propres enfants. Nous avons procédé à la revue de tous les accords dans ce domaine. On a procédé à une recertification pour nous assurer que seules les exploitations qui se font dans le respect des principes du développement durable peuvent continuer. De la même manière, vous savez que nous avons, en termes d'espace, les zones protégées les plus importantes du continent africain. Et nous sommes en train de travailler à la réhabilitation de ces zones parce qu'elles ont beaucoup souffert des guerres que notre pays a connues au cours des dernières années. Et aujourd'hui, il y a un grand programme de remise en état de ces zones pour qu'elles puissent continuer à aider l'humanité à respirer un air qui garantisse l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants.
Il est temps de passer aux actes parce que le changement climatique chez nous maintenant, ce ne sont plus des mots vains, c'est du vécu quotidien, souligne de son côté le ministre de l'Environnement du Burkina Faso. Salif Ouedraogo explique.
Parce que nous sommes un pays qui appartient à la bande sous-sahélienne, où les problèmes de désertification sont plus ou moins d'acuité, où les phénomènes de dégradation des terres est accentué, où le phénomène de la déforestation est une réalité. Chaque année, nous perdons entre 200 à 300 000 hectares de forêt. Parce que bon, la principale source d'énergie, c'est le bois énergie. 80% à 86% de la population est rurale. Lorsque vous dites à ces populations de ne plus couper le bois pour se nourrir, s'alimenter, se chauffer, il faut leur donner des alternatives. On n'a pas encore ces alternatives. Donc, les populations locales qui ne comprennent pas ce qu'on appelle changement climatique, qui ne comprennent pas ce qu'on appelle gaz à effet de serre, ont des difficultés pour accepter, introduire cette nouvelle approche. Donc, nous avons beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. C'est pour cela que nous tentons maintenant de prendre en compte dans toutes les stratégies sectorielles de développement la notion de changement climatique et la notion donc de la prise en compte de l'environnement qui est notre patrimoine commun à tous que nous devons préserver, conserver et valoriser. Nous sommes en train d'introduire la notion de durabilité au niveau du secteur agricole. Nous sommes en train, à travers l'agroforesterie, d'implémenter de nouvelles approches technologiques. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il est prouvé qu'on peut cultiver des céréales sans défricher le sol, sans couper les arbres. Nous sommes aussi en train d'apprendre aux gens comment il faut introduire la notion d'efficacité énergétique au niveau des bâtiments. Nous sommes aussi en train de développer ce qu'on appelle les énergies renouvelables, par exemple le photovoltaïque. Vous savez que Burkina Faso, comme beaucoup de pays sahéliens, comme le Niger, le Mali, nous sommes des pays où 365 jours dans l'année, nous avons l'énergie solaire. Donc nous pensons qu'il est temps d'opter pour cette nouvelle source d'énergie qui est propre et qui est disponible. Donc si nous développons les énergies renouvelables, si nous développons ce qu'on appelle les biogaz, les biodigesteurs, nous allons pouvoir donc introduire au niveau du monde rural ce facteur de production qui est indispensable. Imaginez-vous lorsque l'énergie se trouve dans un village, c'est tout un monde qui vit. Les femmes vont travailler la nuit, les enfants pourraient étudier la nuit avec des lampes électriques. Ça va avoir un impact commensurable. Donc nous tentons donc d'introduire cette nouvelle approche-là, aussi bien au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage. Un élevage plus durable, pas très extensif, ne pas laisser les animaux divaguer. Parce que la divagation des animaux, c'est la destruction de l'environnement, des arbres, des plantes. Ce sont des valeurs nutritives et médicinales que nous devons conserver et valoriser.
Pour faire avancer les négociations sur le climat, il faut un partenariat entre les pays développés, les pays en développement et le secteur privé, estime pour sa part Hakima El Haïté, la ministre déléguée à l'environnement du Maroc, qui évoque aussi le fonds vert et le marché du crédit carbone.
Moi, je pense qu'il y a un fonds mondial de l'environnement. Il y a le fonds vert. La Banque mondiale et notre pays, le Maroc, est en train d'essayer de remettre encore sur le marché et de donner encore de la force au marché du crédit carbone. Donc, la finance carbone doit revenir et doit revenir avec force. Même si on avait tous les fonds du monde et même si les pays industrialisés venaient et avançaient les fonds et respectaient leurs engagements des 100 milliards par an jusqu'à 2020, tous les fonds du monde ne suffiraient pas à rétablir, je dirais, et à restaurer les 45% des sols qui sont dégradés à travers le monde et l'insécurité alimentaire qui règne dans le monde. Donc je pense que ces fonds-là devraient servir de catalyseur pour créer du développement dans les pays en développement et les pays émergents. Il faut créer de la richesse et c'est là où le secteur privé intervient. Donc, on met en place les fonds au niveau du Fonds mondial, on répartit ou on distribue cet argent de façon à ce qu'il soit catalyseur des projets de développement dans les pays africains et dans les pays en souffrance qui, eux, demandent de l'argent pour les mesures d'adaptation. Et à ce moment-là, les pays industrialisés interviennent pour mettre en place des projets intégrés dans les pays en développement pour créer de la richesse. Et à ce moment-là, le Fonds vert mondial et les fonds carbone ne serviraient qu'à financer le gap entre les technologies conventionnelles et les technologies durables.
Et au niveau régional, Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, parle des initiatives et des opportunités du développement générées par le climat.
Tout le monde sait que l'Afrique est un continent qui est perdant avec le contexte et la situation telle qu'elle se développe. Nous avons très peu d'émissions et nous souffrons le plus par rapport au changement climatique en termes d'érosion, en termes de menaces de toutes sortes, en termes de manque de technologie, en termes de capacité installée pour pouvoir faire face aux défis. Et nous savons que cette injustice climatique a aussi été, en quelque sorte, le moteur d'une attitude par rapport à l'Afrique qui est la bienvenue, c'est-à-dire de vouloir aider l'Afrique, mais qui n'est pas suffisante. Nous voulons vraiment changer le discours. Les Africains veulent faire partie des solutions au changement climatique et pas seulement être les récipiendaires de l'aide qui éventuellement pourrait venir pour s'adapter à la situation actuelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en quelques mots, les Africains ont besoin de s'industrialiser, ont besoin de développer leur agriculture, ont besoin de pouvoir créer des emplois, enfin faire tout qui pourra permettre une amélioration de leurs conditions de vie et pourront le faire avec une technologie qui est adaptée au changement climatique, c'est-à-dire le faire avec des technologies modernes, plus propres, qui émettent moins de CO2, ou bien ils peuvent le faire d'une façon très traditionnelle qui permettra vraiment de combler certains besoins économiques et sociaux, mais qui portera beaucoup de tort à la situation climatique telle que nous la connaissons. Les Africains veulent faire partie des solutions. Pour qu'ils puissent faire partie des solutions, ils veulent être traités d'une façon différente. Ils veulent être aux tables des négociations avec une voix beaucoup plus forte. Ils veulent que des accords soient trouvés d'ici la grande réunion de Paris de 2015. Les Africains ne veulent pas non plus donner l'impression qu'ils vont attendre seulement la conclusion éventuelle d'accords. Ils se préparent à ce que certains ont appelé le plan B, c'est-à-dire faire des choses à leur manière, attaquer au problème du changement climatique en donnant des priorités qui sont associées à la transformation économique du continent et qui permettront de s'attaquer en même temps aux besoins socio-économiques, mais aussi aux besoins de changement climatique.
Alors, sur le plan scientifique, quelques préoccupations de Michel Jarraud, le secrétaire général de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale.
Le nombre de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de leaders du secteur privé qui sont présents témoigne de l'importance de ce sommet. Ça témoigne du fait qu'il y a une prise de conscience de l'urgence du problème. Si on ne réduit pas de manière dramatique les émissions de gaz à effet de serre dans les années qui viennent, l'objectif de 2 degrés sera très très difficile à atteindre. Et je crois que les semaines, les mois qui vont venir vont être absolument critiques dans ce domaine. Il faut absolument qu'on puisse réduire très rapidement les émissions. Or, pour le moment, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le dernier bulletin qu'a publié l'Organisation météorologique mondiale montre que les concentrations de CO2 dans l'atmosphère ont augmenté plus vite que dans n'importe quelle autre année depuis plus 30 ans. Donc là, le message est préoccupant. On peut encore faire quelque chose. On a le choix, mais ça demande des décisions urgentes, courageuses et concrètes.
Enfin, réaction sur le sommet du climat à New York de Laurence Toubiana, l'ambassadrice de la France chargée des négociations sur le changement climatique. Elle s'occupe de la préparation de la conférence Paris Climat 2015.
C'est vraiment positif. D'abord parce que ce long travail de mise en ordre de beaucoup d'initiatives qui étaient au fond un peu dispersées se rassemble ici et qu'on a aujourd'hui dans beaucoup de secteurs, presque tous les secteurs, de l'énergie au transport en passant par la forêt, l'agriculture et surtout les finances, des mouvements qui montrent que beaucoup d'acteurs sont en train de changer et qu'on a une minorité agissante, importante, qui veut faire bouger les choses. Que les solutions existent, elles sont parfois partielles, elles ne sont pas encore à l'échelle du problème, loin de là, mais qu'il y a donc une base sérieuse pour s'engager. Or, du point de vue du gouvernement français, l'idée de l'accord de Paris, c'est un accord dans le cadre de la Convention des parties, un accord légalement contraignant. C'est des contributions qui vont être appuyées par cet accord ambitieuse des pays. Et c'est tout un volet aussi des autres initiatives qui vont être prises par les uns ou par les autres. Et donc, ce sommet est une base formidable pour réussir Paris.
C'est ainsi que s'achève Escale, consacrée au sommet sur le climat qui a eu lieu le 23 septembre au siège des Nations Unies à New York. Plusieurs personnalités s'expriment sur ce sujet dans ce magazine. Escale est un magazine de la radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani en collaboration avec Christina Silvero et avec l'assistance technique de Florence Westergaard. Merci de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.